parloir libre. Des témoignages de personnes concernées de près ou de loin par l'enfermement.
Je suis venue ici dans la région parce que du coup en 2014 j'ai fait un séjour dans le XAPA Le Gué, qui est donc un centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie. J'y étais donc parce que j'ai des problèmes d'addiction. Sur le thème en tout cas, moi je pense pas qu'on puisse complètement s'évader des addictions quand on les a vécues. Ça serait comme tronquer une partie de mon passé, et en fait le fait est que c'est pas possible. Alors est-ce que avec les addictions j'ai cherché à m'évader? Je sais pas. J'ai eu une vie. Moi je viens de Paris, j'ai grandi, j'avais mes deux parents, bon ils étaient séparés, mais j'avais pas un contexte familial si violent que ça ou si torturé, etc. J'avais toute ma famille autour de moi. J'ai quand même été une enfant très gâtée, d'un milieu assez populaire, mais quand même plutôt cultivée. J'ai fait des études. Et je pense pas, en fait. Moi, je me suis beaucoup tapée dessus avec ça dans mes problèmes d'addiction. Je me disais, mais pourquoi une personne qui est à côté de moi et qui a une vie qu'on pourrait qualifier de 10 fois plus difficile, elle traverse et malgré tout, sans faire usage de drogue au point de se retrouver hospitalisée. Et en fait, finalement, chercher les raisons de pourquoi moi j'ai eu ce parcours, ça m'a pas tellement aidé à arrêter, ça m'a plus accompagné après pour comprendre, mais en tout cas pour sortir de cet enfermement dans lequel j'avais fini par arriver, puisque c'est là où ça m'a emmené, même si ça a mis une longue période avant d'en arriver vraiment à la question de l'enfermement dans l'addiction. Je suis pas sûre que de beaucoup intellectualiser ce qui se passait pour moi, ça m'est tellement aidé à en sortir. Moi j'ai commencé par, ça a été assez graduel, hein. J'ai commencé par les drogues douces, l'alcool, qui est une drogue légale. Ensuite est arrivée la cocaïne et les troubles alimentaires. Et tout ça, en gros, ça a commencé de à peu près 12 ans les premiers joints. 14 ans les premières bières, 20 ans les troubles alimentaires, 21 ans la cocaïne, et tout ça c'est bien emmêlé, et emmêlé avec des expériences de vie. Alors il y avait un côté qui était très festif, joyeux dans mes études, je travaillais sur des festivals, je voyageais pas mal, donc je m'amusais beaucoup, et en même temps quelque chose d'assez torturé dans mon rapport aux produits, parce que ça... Disons que tout de suite, par rapport aux autres personnes qui consommaient autour de moi, je savais que je l'utilisais comme de l'auto-médication. Par exemple, les premiers joints que j'ai fumés, ça m'a aidé à dormir, moi qui avais toujours eu des problèmes de sommeil. Donc tout de suite, j'ai commencé à économiser et j'ai fumé tous les soirs. Jamais en groupe, enfin voilà, c'était une consommation qui était très très organisée depuis le départ. Tout de suite, en soirée, j'ai commencé à mettre certains alcools de côté, des alcools pas forts pour maîtriser ma consommation et réguler mon taux d'alcoolémie tout en étant sûre d'avoir toujours à boire. Donc voilà, c'était quand même des choses qui où je voyais que j'avais certaines affinités avec les produits ou des comportements qui n'étaient pas les mêmes que les personnes avec moi dans la pièce et qui faisaient la pièce. C'était aussi un rapport assez privé parce que j'aimais beaucoup consommer toute seule. Je préférais consommer toute seule que consommer en groupe. Alors je consommais en groupe aussi, mais il fallait que je sois sûre que j'ai de quoi consommer toute seule derrière. Donc le fait que moi mes consommations se soient beaucoup beaucoup imbriquées, ça les a rendues d'autant plus difficiles à démêler. Donc à mes 20 ans, les troubles alimentaires c'était vraiment quelque chose d'extrêmement compliqué parce que je savais que je ne pouvais pas m'arrêter de manger puisque c'était aussi de la maladie. Et le problème, c'est que la cocaïne, pour quelqu'un qui est anorexique boulimique, c'est quelque chose qui coupe la faim et que du coup, ça a vraiment tout amplifié. Et quand j'ai arrêté la cocaïne, c'est le moment où j'ai commencé à chercher de l'aide tout court. En fait, j'avais pas encore fait de démarche avant. Donc là, j'ai cherché un psy. Ma mère m'y a aidé. J'en ai trouvé un qui était un psychiatre addictologue. Et on a continué la thérapie, donc je consommais plus de drogues dures, mais par contre les troubles alimentaires et l'alcoolisme, c'était vraiment de pire en pire. Et j'ai vécu 3 ans de littéralement de descente aux enfers, où alors là, par contre, j'ai commencé à tout perdre en fait. C'est-à-dire que je n'arrivais plus à travailler, je me mettais dans des situations pas possibles. Et puis, même quand je ne consommais pas, je ne pensais qu'aux produits. C'est-à-dire que soit j'anticipais sur ce que j'allais pouvoir manger, sur ce que j'avais comme alcool à la maison, sur l'argent qu'il fallait que je trouve pour consommer, à quel moment je pourrais consommer, est-ce que je pourrais me faire venir, est-ce qu'il y avait des toilettes, hein. Voilà. Et ça prenait mon temps tout le temps. Pourtant, je continuais mes études, je continuais de travailler, mais ça avait pris vraiment toute la place à la fin. Mais c'est le moment où j'ai commencé à avoir des symptômes physiques de sevrage d'alcool, que là, je ne vivais plus chez ma mère, je vivais en couple, ma mère a été très désemparée avec tout ça, mais elle a quand même toujours été là, donc j'ai toujours pu lui parler. On a commencé à chercher une solution ensemble. Donc d'abord, j'ai rencontré un alcoologue, j'ai fait des sevrages à la dure chez moi, donc avec tout le délirium prémens, les hallucinations et compagnie, en me disant que plus ça serait dur, moins j'avais de chance de reconsommer derrière. Sauf que ça marche pas très bien, parce que comme les crises de boulimie prenaient toute la place, l'alcool m'aidait à réguler en fait la boulimie. En fin 2013, j'accompagnais des groupes sur des voyages en bus en Europe. Et c'était la deuxième année que pour partir à Londres pour faire le jour de l'an, j'oubliais mes papiers. Parce que pour prendre le ferry, il y a quand même besoin des papiers. Et l'année d'avant, j'avais réussi à passer avec une photo de ma carte vitale sur mon téléphone, mais cette année-là, je ne suis pas passée. Donc du coup, il a fallu que je me débrouille pour rentrer et que je laisse mon quart de passager partir à Londres sans moi. Et ma mère m'avait dégoté un rendez-vous dans une clinique privée, pour commencer à gérer tout ça et rentrer en soins à temps plein. Ça faisait déjà 3 ans de thérapie n'avançait pas tellement. Et en fait, j'y suis allée avec une bouteille dans mon sac et j'avais rendez-vous avec la directrice. Je lui ai mis la bouteille sur la table et elle m'a dit « Madame, on vous garde ». Et donc là a commencé mon soin. Le guet, c'est arrivé à peu près au milieu. J'avais déjà fait 3 structures avant d'arriver au guet. Et dès que j'avais un espace de liberté, je consommais. Et en plus, avec des médicaments qui me mettaient assez en danger si je consommais, mais rien ne m'empêchait en fait. C'était vraiment, pour moi, c'était une... Je devenais complètement folle et j'attendais que mon corps lâche. J'ai jamais pensé au suicide. C'est quelque chose que j'ai jamais envisagé, mais j'attendais que ça pète tout seul en fait. Donc, ce qui est... Enfin, je pense que la finalité est finalement un peu la même. Quand je suis arrivée au guet, ça m'a fait un drôle d'effet déjà parce que on m'a traité comme un être humain, pas comme un numéro de chambre, à la différence des 3 autres structures où j'avais été avant. Ça a été très difficile pour moi d'être tout le temps en groupe, mais il y a un rapport au vivant, au guet, que ce soit par le travail de la ferme, par les fruits qu'on cultive, parce que là-bas, le soin est basé à la fois sur le maraîchage et sur la vie en collectif. Donc, alors, on se tape vraiment tout le temps le groupe, donc c'est un peu dur, mais en même temps, ça fait quand même beaucoup travailler sur soi. Donc, il y a le vivant humain, il y a le vivant, les fruits, les légumes, tout ce qui est végétal, et puis il y a les animaux. Et il y a quelque chose pour moi qui s'est passé, mais dont je ne me suis pas rendu compte tout de suite. Je pense que avant de devenir abstinente, il y a quand même beaucoup de choses qui m'échappaient. Je crois que s'il y a quelque chose que j'ai cherché à fuir avec les addictions, c'était vraiment ce que je ressentais à l'intérieur. C'était pas tellement mon cadre de vie extérieur, ou en tout cas, si ça l'était, c'est des années après que je m'en suis rendu compte. C'est des années après que je me suis rendu compte de tout ce qui avait pu se passer avec mon père. C'est des années après que je me suis rendu compte de ce qui s'était passé entre mes parents, des choses que j'avais vues mais que j'avais pas compris. Je pense que quand on est enfant et qu'on n'a que ce modèle, on ne se rend pas compte exactement de ce qu'on cherche à fuir ou pourquoi ça nous est difficile. Enfin, je faisais avec, quoi. Hier, lors de la conférence qu'on a fait, on a eu un échange et il y a quelque chose qu'un autre intervenant a dit et qui m'a que je trouve assez juste, c'est-à-dire que j'ai pas que cherché à fuir quelque chose avec, avec toutes ces addictions, c'est au contraire, j'ai cherché à traverser quand même. C'est-à-dire à vraiment à survivre, parce que je pense que si j'avais pas eu toutes ces béquilles, clairement aujourd'hui je serais pas là. Bon, alors après ça s'est retourné contre moi, parce que si j'avais pas enlevé toutes ces béquilles, je serais sûrement pas là non plus. Mais voilà, c'était pas un mouvement d'automutilation, quoi. C'était plutôt de la préservation. Le séjour au gars a été assez court, et puis je suis ressortie, j'ai fait une énorme rechute. Et moi, c'est quand j'ai rencontré des groupes de parole que pour moi, ça a été... pour le coup, c'est des groupes de parole qui sont vraiment hors de toute structure médicale. On est contre alcoolo ou contre dépendants ou contre personnes qui ont des troubles alimentaires. Et j'ai vu des gens qui avaient fait des choses... Quand on est dans une salle de ce type de groupe de parole, il y a toujours quelqu'un qui a fait pire que nous, en fait, dans la drogue ou dans la conso. Et c'est tellement réconfortant. Enfin, je suis arrivée et puis je pouvais me dire, mais je suis pas la seule tarée qui a fait tous ces trucs dont j'ai tellement honte, parce que le poids de la honte, je trouve qu'il est quand même très très fort dans ce truc-là. Et quelqu'un qui n'a pas vécu les addictions, je pense, peut être empathique, etc. Enfin, mais il ne peut pas vraiment le comprendre. Et ce réconfort que j'ai trouvé là, et cette liberté de la parole, et de pouvoir confier des choses rien que d'y penser, j'en rougissais, quoi. Et avec beaucoup de culpabilité, de m'en libérer et de me dire que j'étais pas seule, et que ce qui comptait finalement, c'est ce que je faisais maintenant, que c'était aussi une façon de réparer, ça m'a beaucoup beaucoup soulagée. Là aujourd'hui, ça fait plus de 8 ans que je vais dans ces groupes de parole, et 7 ans et demi que je suis abstinente, et je continue d'y aller. Donc pour moi, mon salut, ça a vraiment été à travers mes pères, en fait, et c'est tous ces gens qui, même après des 20 ans d'abstinence, revenaient et continuaient de partager leur expérience. Et du coup, pour moi, c'est hyper important de redonner, en fait. Moi, j'ai mis quand même pas mal de temps à avoir accès à cette parole d'autres qui avaient vécu. Sinon, il y avait des récits type Christianette, droguée, prostituée. Mais franchement, c'est un peu l'angoisse, ce genre de témoignage. Enfin, c'est un témoignage très particulier et précieux. Mais c'était un peu... Il y avait quand même assez peu de choses disponibles, moi. Ou en tout cas, je sais pas si je cherchais mal. Mais moi, il y a un film qui m'a vachement marqué. C'est Un singe sur le dos. De Jacques Maillot, je crois, où c'est un mec qui perd tout dans l'alcool et qui va dans des groupes de parole. Et ce film m'a beaucoup marqué, et je crois vraiment très fort en l'objet culturel. Donc du coup, là, je suis partie, moi, sur un abécédaire illustré de l'addiction. Je suis artiste, et en fait, en sortant des addictions, moi, c'est mes études, je les ai faites dans l'art, je pensais que je ne créerais plus, parce que créer sous produit, c'était trop bien, mais créer sans produit... c'était très angoissant pour moi. Donc j'ai fait toute une rééducation qui a duré plusieurs années, et aujourd'hui je ne fais plus que ça. C'était pas un objectif pour moi de travailler sur l'addiction artistiquement, mais j'ai cherché à... Enfin, j'ai été contactée pour témoigner par le biais de la presse, et en fait, le fait que mes propos soient repris par des journalistes et donc... écrit par des journalistes, parce qu'il y a un vrai travail d'écriture quand on est journaliste. J'ai été quand même assez contrariée des publications, du coup je me suis dit qu'il fallait que je le fasse moi-même. Et clairement, les personnes pour qui je le fais, même si finalement c'est les plus difficiles à atteindre, c'est les personnes qui vivent la dépendance. Je fais pas ça juste pour que ça serve à quelque chose, je fais ça parce que je me rappelle tellement fort du désespoir dans lequel j'étais de m'en sortir. Enfin, j'ai vraiment des images très très fortes, quoi, et même des sensations que j'aurais bien aimé, moi, qu'on me dise t'es pas seule à vivre ça, parce que je me suis vraiment sentie très très seule là-dedans. Et pour ceux qui y sont, c'est ça que j'ai envie de dire, c'est t'es pas seule à vivre ça, et c'est possible de s'en sortir. Parce que alors ça, vraiment, j'y croyais pas. À moins d'être enfermée entre quatre murs, justement, je n'y croyais pas. Et du coup, finalement, je dirais, si on revient sur l'évasion, ça serait une évasion collective, mais qui n'est pas possible sans l'autre, quoi. Et pour moi, ça a été sans l'autre qui l'a vécu. Voilà, je vais dire deux mots rapidement de l'abécédaire. Au début, je voulais faire une sorte de livre illustré qui parlerait de mon parcours, puisque j'en ai beaucoup lu et que j'adore ça. Mais finalement, j'ai envie que chacun et chacune puisse s'identifier. Et je pense que du coup, de trop nommer le type de produit, de trop situer mon propos en disant que je suis une femme, c'est pas que je trouve ça pas intéressant, c'est que je veux quelque chose d'un peu plus, presque un peu plus abstrait, pour pouvoir m'adresser au plus grand nombre. Donc il y a un premier volume qui est en cours, qui parle vraiment de la maladie, parce que moi quand j'étais dedans, c'est de ça dont je voulais entendre parler. Je voulais qu'on me parle de qu'est-ce qu'on. Enfin, c'est quoi cette folie en moi qui fait que j'ai toujours besoin de retourner consommer. Là par exemple j'ai un extrait sur le plus, parce que toujours plus, jamais assez, et que j'en veux d'avance, même quand j'en ai trop, pour quand j'en aurai moins. C'est vraiment, il y a un truc de cet ordre-là dans l'addiction. Il y aura un deuxième volume qui est plus sur l'abstinence et un troisième volume sur l'addiction en tant que femme, parce que je ne me suis jamais considérée comme politisée, mais plus je grandis et plus je vis dans l'abstinence et plus je me politise, plus je suis féministe, la question de la santé publique m'intéresse. Alors moi, mon métier, c'est artiste, et je pense qu'on peut porter vraiment des choses en étant artiste, et c'est ce qui m'intéresse. Et je pense que la question de l'accueil des femmes pour le soin des addictions est un vrai sujet auquel j'ai envie de m'intéresser de plus en plus, et qui donc arrivera dans un troisième temps, parce qu'il y a déjà du boulot sur l'addiction, sans rentrer dans la question du genre. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là.
Venez d'écouter une émission réalisée par Radio d'ici.